passion, on avait introduit à un moment une notion de liste et une notion d'arbre, et on avait passé une séance à discuter d'un certain nombre d'algorithmes qui sont consacrés aux listes. Et dans cette séance, ainsi que dans la suivante, nous allons nous intéresser à des algorithmes qui manipulent des arbres. Et puis, dans la dernière, dans le dernier amphi, nous ferons quelque chose d'un petit peu différent que vous avez déjà peut-être vu, qui est de revenir sur les algorithmes de tri. Et ça sera un amphi qui sera un peu déconnecté du reste. Mais disons, dans le contrat qui me lie aux enseignants de deuxième année, il est nécessaire que je vous parle un petit peu d'algorithmes de tri. Et ce qu'on essaiera de voir, c'est que par-delà la grande diversité des algorithmes de tri, il y a un petit nombre d'idées qui reviennent et qui sont les mêmes dans tous les cas. Mais enfin, pour commencer, on va parler des arbres. Et il y a essentiellement trois algorithmes qu'on va discuter dans ces deux cours. Aujourd'hui, on va parler d'arbres de recherche. Et puis, la semaine prochaine, on va parler de parcours d'arbres et également d'utilisation d'arbres pour représenter l'état. Et c'est en particulier l'état, c'est quelque chose qu'on va réutiliser quand on va parler de tri. À la fin de cette séance, nous allons introduire la dernière construction des langages de programmation de ce cours qui s'appelle les exceptions. Et nous verrons que ça permet en particulier de répondre à un problème qui se pose quand on utilise des arbres de recherche. Donc, je vous rappelle qu'on était arrivé à peu près au milieu du cours à introduire une notion de type de données dynamiques et qu'un type de données dynamiques, c'est juste un enregistrement, un type enregistrement qui a un certain nombre de champs qui sont récursifs. Quand il y a un seul champ qui est récursif, ce type s'appelle un type de liste. Quand il y a plusieurs champs récursifs, ça s'appelle un type d'arbre. Et donc voici les trois algorithmes que nous allons voir, les arbres de recherche cette semaine, les parcours d'arbres et les files de priorité ou l'état. Alors d'abord revenons un petit peu sur la notion de type d'arbre. Un type d'arbre, c'est donc un type enregistrement dans lequel il y a au moins deux champs récursifs. Et donc le type d'arbre le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est celui-ci qui a deux champs récursifs qu'on appelle gauche et droite. Alors pourquoi, comment est-ce qu'on voit qu'ils sont récursifs? Bah, tout simplement parce que leur type, le type de ces champs est lui-même arbre et il n'y a rien d'autre. Et donc ça, c'est des arbres binaires sans contenu. Et le type un tout petit peu plus compliqué qu'on peut imaginer, c'est celui-ci où, outre ces deux champs récursifs gauche et droite, qui ont le même nom qu'ici, on a un champ qui est non récursif et qu'on appelle en général le champ valeur. Alors on verra tout à l'heure des types d'arbres un peu plus compliqués dans lesquels on peut avoir plusieurs champs non récursifs ou alors, bien entendu, plus de deux champs récursifs. Dans ce cas-là, ce ne sera plus des arbres binaires, ce sera des arbres ternaires, quaternaires, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Eh bien, en gros, c'est une valeur d'un type d'arbre. Donc, le type arbre que j'ai défini au transparent précédent, ces éléments, on va les appeler des arbres. Mais cependant, on va se donner une restriction. Et je vais d'abord vous exprimer cette restriction d'une manière relativement informelle. Puis, on verra dans deux ou trois transparents comment elle se traduit d'une manière plus rigoureuse. On va exclure de la mémoire les situations, ces deux situations, ici dans lesquelles on a un arbre infini, rationnel. Donc je vous ai mis ni valeur rationnelle, en fait je voulais dire ni valeur rationnelle infinie, bien entendu, les valeurs finies sont rationnelles également, mais donc ici je voulais dire pas de valeur rationnelle infinie. Donc ici, pas de possibilité d'avoir une cellule qui pointe sur une autre, et ici, une cellule qui repointe sur celle-là. Et également, pas de partage, pas de possibilité d'avoir une cellule comme celle-ci sur laquelle il y a deux champs d'une même cellule ou de deux cellules différentes qui pointent. Donc on verra comment exclure ces deux situations tout à l'heure. Donc la simple définition des types enregistrements qu'on a vu à l'amphi numéro 4 nous dit qu'un arbre, c'est ou bien la valeur nulle, puisque la valeur nulle est une valeur de type arbre, ou bien une référence, une cellule qui est associée dans la mémoire à deux arbres. La valeur nulle, on va l'appeler l'arbre vide, exactement de la même manière qu'on avait appelé la valeur nulle de type liste, la liste vide. Et donc, vous voyez que assez rapidement, Le nombre de cellules qu'on a dans un arbre est important. On peut bien sûr faire de très grandes listes, mais avec des listes, on arrive à faire des représentations à base de boîtes. Mais c'est plus possible avec des arbres. Il aurait vraiment fallu que je passe, non pas deux week-ends, mais tout mon été, à peindre des boîtes de chaussures, de manière à pouvoir fabriquer des arbres, puisqu'à chaque fois qu'on a une cellule, ça part sur deux arbres et non un seul. Et donc, il y a un nombre de cellules dans les petits exemples qui est beaucoup plus grand. Donc, plutôt que de les représenter de manière physique, on peut les représenter de manière graphique. Représentant, donc attention, ça c'est une boîte bleue, ça c'est une boîte rouge, ça c'est quatre boîtes rouges, et ça c'est des pointeurs. Bon, mais maintenant, vous avez à peu près compris comment ça marche. Alors, c'est représenter les arbres comme ça. On va introduire une représentation plus légère, dans lequel, ici, on a exactement le même arbre. Chaque cellule binaire est représentée par un rond, comme ça, et on met juste un trait vers la gauche, un trait vers la droite, pour indiquer les pointeurs vers les autres cellules. Il n'y a plus de flèches, il y a juste des ronds et des segments. Alors attention, ici, on a un arbre, une cellule qui a un seul enfant, et, enfin, un seul, enfin, il n'y a que le champ gauche, qui est non nul, et ça on l'indique en mettant ici le segment à gauche. Donc c'est pas la même chose de mettre ici le segment à gauche ou de le mettre à droite ici. Donc un rond c'est simplement une cellule du tas, et un pointeur c'est simplement un segment. Il se pose une question de savoir quelle est la valeur ici de A dans cette situation. Quand la mémoire est celle-ci, quand l'état est celui-ci, c'est-à-dire on a ici à la fois un environnement qui associe au nom A cette référence, qui est une boîte bleue, et puis ensuite la mémoire qui est associée à cette référence, etc. Et si on se pose la question quelle est la valeur de A, eh bien on a un petit peu deux types de réponses. Ou bien la valeur de A, c'est la référence qui se trouve ici, ou bien on peut dire c'est cet arbre en entier. Okay. Et de manière précise, la valeur de A, telle qu'on l'a définie avec la fonction θ au début du cours, c'est uniquement cette cellule. Et donc, un effort de définition pour associer à A, non pas cette cellule, mais cet arbre entier. Et cependant, quand on fait une fonction qui prend un arbre et qui ajoute une cellule, on a vraiment envie de voir le résultat de la fonction comme étant l'arbre entier. On a vraiment envie de parler de fonctions qui manipulent des arbres et non pas juste la racine de l'arbre. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit effort pour ça. Représentation graphique des arbres qui ont un champ val, un champ pour le contenu, eh bien, on va indiquer l'entier ici de la cellule à l'intérieur du rond. Donc ici, on a une cellule qui est une boîte rouge à trois champs, avec un champ val qui vaut 3, un champ gauche qui vaut 7 cellules et un champ droit qui vaut 7 cellules. Bien, un peu de vocabulaire. Donc, quand on aborde la notion d'arbre, il y a beaucoup de mots qui servent à dire la même chose, qui sont en fait des synonymes pour les mêmes concepts, mais qu'on emploie dans des situations un peu différentes, ce qui permet de mieux comprendre ce qu'on raconte. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un arbre ? Eh bien, c'est une référence, c'est une cellule. Donc c'est juste une boîte, on va appeler ça un arbre. Quand on a un arbre A, on va appeler l'ensemble des nœuds de l'arbre A, l'ensemble des références qui sont accessibles depuis A. Donc ça veut dire, quand j'ai un arbre comme celui-ci, eh bien l'arbre lui-même, c'est cette référence, cette cellule. En revanche, l'ensemble des nœuds accessibles depuis l'arbre, eh bien c'est toutes ces cellules, le 1, le 5, le 9, le 8, tout ça sont accessibles par un chemin depuis cette cellule-là. Donc ça se définit simplement. C'est le plus petit ensemble qui contient A et qui, à chaque fois qu'il contient une cellule, contient une cellule B, contient la cellule B.gauche et contient la cellule B.droit, à condition que B.gauche et B.droit soient des cellules. Si B.gauche ou B.droit sont nuls, eh bien on ne met pas nul dans l'ensemble des nœuds de l'arbre. Alors qu'est-ce qu'on appelle un nœud de l'arbre? Eh bien c'est simplement une référence, c'est une cellule, et vous voyez que c'est la même chose qu'un arbre non vide. Mais dans ce cas, on voit, quand on utilise le mot arbre, c'est parce qu'on voit ici cette cellule comme étant la racine de cet ensemble de nœuds accessibles depuis là. Okay. En revanche, je peux vouloir parler de ce nœud en tant que nœud de ce grand arbre, et dans ce cas-là, c'est la même cellule mais je lui donne une signification un petit peu différente. Ici, quand je parle de l'arbre, c'est la cellule à partir duquel je calcule l'ensemble des nœuds accessibles, et quand je parle du nœud, c'est l'élément de l'ensemble des nœuds accessibles à partir de l'arbre 3. De par cette définition, je peux dire que n'importe quel nœud qui est accessible dans l'arbre A, il est de la forme A.gauche.gauche.droit.gauche, etc. C'est-à-dire, il y a une séquence binaire formée des éléments gauche et droite, telle que le nœud soit la valeur, cette valeur-là. Donc, par exemple, si je parle du nœud 2 ici en tant que cellule, en tant que nœud de l'arbre 3, eh bien, l'arbre, donc si j'appelle cet arbre-là A, vous voyez que ce nœud, c'est A, point droit, point gauche. Celui-ci, c'est A, point droit, point droit, point droit. Celui-ci, c'est A, point gauche, point droit, point gauche. Et à chaque fois que j'ai deux suites binaires distinctes, A, point gauche, point droit, point gauche, et A, point gauche, point gauche, point droit, par exemple, ça désigne deux nœuds différents de l'arbre. Alors pourquoi est-ce que ça désigne deux nœuds différents de l'arbre? Pourquoi? Voilà, précisément parce qu'on a exclu aussi bien les valeurs infinies rationnelles que le partage. Regardez tout à l'heure, quand j'avais du partage, eh bien ici, A, point gauche et A, point droit, ça représente la même cellule. Et ici, quand j'ai une valeur infinie, A, point droit, point gauche, c'est la même valeur que A. Ainsi que A, point droit, point gauche, point droit, point gauche, point droit, point gauche. Une manière plus précise de dire qu'on exclut les valeurs infinies rationnelles et les valeurs et le partage, de dire que si l'arbre, si quand je prends deux suites binaires distinctes, eh bien la valeur dans la mémoire de cette expression A point gauche, point gauche, point droit, point gauche, et la valeur prise pour l'autre suite binaire, eh bien ce sont des références distinctes. D'accord ? Donc ce n'est pas juste une convention informelle, c'est quelque chose qui peut se définir. Et dans beaucoup de démonstrations qu'on est amené à faire, par exemple des preuves de programme qui manipulent des arbres, on est obligé d'exploiter cette hypothèse pour montrer que les algorithmes qu'on a construits sont corrects. Alors continuons avec un peu de vocabulaire. Quand on a un nœud C, quand on a un nœud B, on dit qu'un nœud C est l'enfant gauche de B si C est B point gauche. Donc si C est la cellule sur laquelle B pointe dans la case gauche. Alors on peut définir la notion d'enfant droit exactement de la même manière. Et la notion de parent, vous avez compris que B est le parent de C si C est gauche ou l'enfant droit B. Une feuille, c'est un nœud de l'arbre qui n'a pas d'enfant. Et la racine de l'arbre, c'est l'unique élément de l'arbre qui n'a pas de parent. Et la racine de l'arbre A, c'est uniquement A. Alors, comment est-ce qu'on montre qu'il n'y a pas d'autres racines? C'est que si vous prenez n'importe quel nœud de l'arbre accessible qui n'est pas A, dans ce cas-là, il existe une suite qui permet d'aller de A, une suite binaire qui permet d'aller de A à ce nœud B. Donc, par exemple, B, c'est A, point gauche, point droite, point gauche, point droite. Cette suite, elle est non vide. Pourquoi elle est non vide? Parce que B est distinct de A. D'accord? Mais là, j'utilise mon hypothèse qu'avec deux suites distinctes, j'arrive sur des éléments distincts. D'accord? Puisque la suite vide est distincte de ma suite gauche.droit.gauche.droit. Et donc, elles doivent nécessairement donner naissance à deux nœuds différents. Et donc B est A.gauche.droit.gauche.gauche. Bon. Puisqu'elle est non vide, je peux supprimer le dernier élément et j'obtiens une suite qui peut être vide ou non. Et ça, c'est le nœud du parent de B. Et donc B a un parent et donc B n'est pas la racine. Donc le seul nœud qui n'a pas de racine, qui n'a pas de parent dans l'arbre, A, c'est A lui-même. Et enfin, deux derniers mots, le sous-arbre gauche d'un nœud, c'est l'enfant gauche, mais sous-arbre droit, c'est l'enfant droit vu comme un arbre. Donc ici, dans l'arbre qui commence à ce nœud, ici j'ai deux enfants, et les arbres qui partent, dont la racine sont ces deux enfants, et bien c'est le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit de l'arbre dont je suis parti. Bien, une branche d'un arbre, c'est une suite de nœuds où chaque élément est un parent du précédent. Chaque élément est un enfant du nœud qui le précède. Donc par exemple, ici, la suite formée de ce nœud et de ce nœud est une branche. Mais la suite formée de ce nœud et de ce nœud-là est une branche également. Et la suite formée de ce nœud et de ce nœud-là est une branche. La hauteur de l'arbre, c'est la longueur de la plus longue branche, moins 1. Et donc ici, cet arbre, il a quelle hauteur? Donc ou bien 3 ou bien 2, et la réponse est 2. Okay, la plus longue branche, c'est celle-ci, hop, 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 elle a une longueur 3, il y a 3 nœuds, et donc la hauteur de l'arbre, c'est 2, et vous voyez qu'il y a ici une espèce de rez-de-chaussée, un premier sous-sol et un deuxième sous-sol. Par convention, la hauteur de l'arbre vide, c'est moins 1, et c'est la seule convention qui permettra aux formules qu'on va écrire ensuite d'être correctes. Bien, donc ça c'était quelques généralités sur les arbres, et vous avez vu essentiellement qu'on repart de l'idée de type de données dynamiques, mais qu'on habille cette notion de type de données dynamiques à deux champs récursifs d'un vocabulaire un peu différent. Et à chaque fois qu'on a du mal avec ce vocabulaire, eh bien, il suffit de revenir aux notions primitives pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors maintenant, on va voir une utilisation des arbres, qui est les arbres de recherche. Et tout d'abord, on va faire un petit peu de technologie du 1er siècle. Vous savez qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, il est arrivé un grand progrès technologique. Donc, ce n'est pas là qu'on a inventé les ordinateurs, mais on a fait un grand progrès dans la direction des ordinateurs. Donc, voici un dictionnaire. Et supposez que je cherche le mot « ordinateur » dans ce dictionnaire. Donc, il y a un premier algorithme qui consiste à ouvrir le dictionnaire à la première page. Et je vais vous dire ce qu'il y a sur la première page. Je ne vais pas vous lire toute la page, hein, mais les mots, c'est A, 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 A. Après, c'est abaca, abacule, etc. Donc, je peux continuer et chercher le mot ordinateur. Donc, j'ai fini la première page, je fais la deuxième page, je fais la troisième page. Combien d'opérations va me prendre cette recherche ? C'est même prendre un nombre d'opérations qui, en gros, est proportionnel au nombre de mots qui se trouvent dans le dictionnaire. Donc, dans le pire des cas, je cherche le mot zitum. Et donc, le zitum, c'est une espèce de bière, mais c'est le dernier mot du dictionnaire, ZY. Et dans ce cas-là, ça va me prendre, dans le pire des cas, exactement la taille du dictionnaire. Mais en moyenne, eh bien, ça va me prendre la taille du dictionnaire divisée par deux. Vous voyez qu'entre le mot A et le mot zitum, bon, ben, il y a un cas, je fais juste une opération. Dans l'autre cas, je fais N opérations. Et quand vous faites la moyenne sur tout ça, ça fait en gros N sur 2. Mais vous savez qu'il y a un algorithme beaucoup plus simple qui consiste à prendre le dictionnaire, à l'ouvrir au milieu et à regarder. Là, je tombe sur merguez, par exemple. Et donc, ça se trouve avant ordinateur. Donc, je peux oublier la première moitié du dictionnaire, couper l'autre moitié du dictionnaire en deux. Là, je tombe sur resquiller. Donc, c'est avant, c'est avant, c'est après, c'est après, c'est après. Là, maintenant, voilà. Et je tombe sur ordinateur. Alors, je vais vous lire la définition. Qui ordonne, met en ordre. Deuxième définition, celui qui confère un ordre ecclésiastique. Voilà, donc vous savez ce qu'est un ordinateur. Combien de fois, combien d'opérations j'ai dû faire ici? Le nombre d'opérations, il est proportionnel au log du nombre de mots qui est dans le dictionnaire. Et vous voyez que le log, c'est quand même très très petit comparé à la taille du dictionnaire. Vous avez vu que, je sais pas, il y a quelques milliers de mots dans le dictionnaire. Il m'aurait vraiment fallu plusieurs jours pour retrouver le mot dans le dictionnaire. Et là, devant vous, je l'ai retrouvé en quelques secondes. Donc, on n'est pas ici en train de parler d'algorithme exponentiel ou même d'algorithme quadratique. Un algorithme quadratique sur un dictionnaire, ce serait juste pas la peine de l'imaginer. Mais on est en train de parler de passer d'un algorithme linéaire en un algorithme logarithmique. Et vous voyez qu'il y a une énorme différence entre linéaire et logarithmique. En général, on considère que polynomial, c'est faisable. Quand on parle de grosses structures de données comme un dictionnaire, linéaire, ce n'est pas faisable. La seule chose qui est faisable, c'est logarithmique. Donc maintenant, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle la recherche dans ce dictionnaire a pu être logarithmique. Et la première raison qui va vous venir à l'esprit, c'est que dans ce dictionnaire, les mots sont dans l'ordre alphabétique. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on raconte partout. On met les mots dans le dictionnaire par ordre alphabétique et ça suffit pour obtenir un algorithme de recherche quadratique. Est-ce que c'est vrai ? Donc vous savez qu'avant le 1er siècle, avant qu'on invente des codex, on avait d'autres livres qui s'appelaient des volumènes. Et donc voici un volumène qu'on a retrouvé au fond de la mer Morte. Et regardez les mots qu'il y a. A, Abaca, c'est les mêmes. Donc la langue n'a pas changé entre le moment où on a écrit ce dictionnaire et le moment où on a écrit ce dictionnaire. Mais supposez que je veuille faire une recherche dichotomique avec ce dictionnaire. Eh bien, quelle sera la complexité de la recherche ? Elle sera à nouveau linéaire, parce que pour accéder au mot médian, eh bien, je suis obligé de tourner comme ça le dictionnaire jusqu'à la moitié. Pour retrouver merguez. D'accord ? Donc, l'idée qu'il suffit que les mots soient dans l'ordre alphabétique pour pouvoir faire une recherche dichotomique, elle est juste fausse. C'est nécessaire qu'ils soient dans l'ordre alphabétique, ou du moins dans un certain ordre pour lequel on s'est comparé, mais il faut une deuxième idée. Il faut une deuxième idée, c'est qu'accéder à l'élément médian du dictionnaire se fasse en un temps constant. Si vous n'avez pas cette propriété que l'accès à l'élément médian du dictionnaire est en temps constant, et s'il reste, comme dans un volumène, en temps linéaire, eh bien, votre algorithme de recherche dichotomique, il est aussi inefficace que l'algorithme qui consiste à énumérer tous les mots du dictionnaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de volumènes qui sont des dictionnaires. Il n'y a pas de volumènes qui sont des formulaires. Il n'y a pas de volumènes qui sont des encyclopédies. Il n'y a pas de volumènes qui sont des annuaires. Un volumène, c'est fait pour être lu de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Ce n'est pas fait pour être un document comme, mettons, le code des lois, que vous ne voulez pas lire d'un bout à l'autre, mais le jour où vous avez besoin de connaître le texte exact de la loi Hadopi, eh bien, vous sortez le code de l'étagère et vous l'ouvrez à la page sur la loi Hadopi, si jamais il y en a une. Donc, c'est un grand progrès dans l'histoire des technologies de communication qui a permis de passer du volumène au codex, puisque ça permet d'avoir des livres qui ne sont pas faits pour être lus en intégralité, mais qui sont faits juste pour être lus par petits morceaux, en cherchant un petit morceau de manière dichotomique. Bien, on va voir que cette question d'accès de l'élément médian en temps constant, c'est la raison pour laquelle on va utiliser des arbres et non pas des listes pour représenter des... Donc, vous vous souvenez que quand on avait parlé des listes, on avait dit que les listes permettaient de représenter des infinis. Il suffit de mettre la liste. Et pour rechercher un élément, eh bien, l'opération de recherche est linéaire en le nombre d'éléments de l'ensemble. Donc, linéaire en la taille du dictionnaire, linéaire en la taille de l'annuaire. Si on veut faire une recherche dichotomique, qui a une complexité logarithmique, dichotomique, c'est-à-dire on coupe en deux à chaque fois, et donc vous comprenez pourquoi c'est logarithmique, eh bien, on pourrait croire qu'utiliser une liste ordonnée sert à quelque chose, mais en fait, ça ne sert à rien, parce que dans une liste, obtenir la longueur de la liste, ou obtenir l'élément de médian de la liste, c'est quelque chose qui se fait en un temps constant. Vous avez une liste, ça ne sert à rien de ranger les éléments dans l'ordre alphabétique dans la liste. vous avez des algorithmes qui sont aussi inefficaces parce que vous avez, il vous manque cet autre verrou qui est d'avoir un accès en temps constant à l'élément médian. Alors, vous allez me dire, il y a une autre structure de données qu'on connaît qui permet d'avoir un accès à l'élément médian en temps constant ou logarithmique, ça dépend un tout petit peu comment on compte, c'est la notion de tableau. D'accord ? Si vous avez un tableau de 100 cases, eh bien vous pouvez accéder à la case 50. Il vous suffit d'écrire T de 50 et vous avez accédé à l'élément médian. Mais les tableaux, pour représenter des ensembles, ont un autre inconvénient, c'est que la taille du tableau doit être choisie au moment où on alloue le tableau. Donc, si vous avez alloué un tableau de taille 100, eh bien, vous ne pouvez pas mettre 101 mots dans le dictionnaire. Le jour où vous voulez mettre 101 mots dans le dictionnaire, vous êtes obligé de créer un autre tableau de taille 101 et de recopier votre tableau dans le nouveau tableau et de rajouter un élément. Alors, vous pouvez dire pourquoi ne pas prendre un tableau de taille 1 million au départ, mais le problème, c'est que vous ne voulez pas consommer une partie de la mémoire qui contient 1 million de cases tant que vous n'avez qu'un petit nombre d'éléments. Donc vous voulez utiliser beaucoup de mémoire quand vous avez un gros dictionnaire, mais peu de mémoire quand vous avez un petit dictionnaire. Donc la notion de tableau ne vous permet pas de faire ça, puisque pour faire ça, elle demande de faire des recopies entre tableaux de manière trop fréquente. Et donc c'est pour ça que la solution consiste à utiliser des arbres de recherche. Et c'est quoi des arbres de recherche ? C'est des arbres dans lesquels on va mettre des données, sur lesquelles on a un ordre, qui dans le cas du dictionnaire, c'est l'ordre alphabétique. Et c'est un arbre binaire qui contient un champ val, donc un arbre binaire à trois champs, un champ gauche, un champ droit, qui vérifie cette propriété que la valeur d'un nœud est toujours supérieure au contenu de tous les nœuds qui sont dans le sous-arbre gauche et la valeur est inférieure au contenu de tous les nœuds qui sont dans le sous-arbre droit. Donc voici un arbre de recherche. Ici, vous voyez que j'ai le nœud 9 et que ce que j'ai ici est plus petit que 9 et que ce que j'ai là est plus grand que 9. Mais vous voyez aussi que si je prends n'importe quel nœud, par exemple 19, ce que j'ai à gauche de 19 est plus petit, ce que j'ai à droite de 19 est plus grand. Vous voyez que pour le même ensemble d'entiers, 1, 5, 9, 12, 19, 24, il y a plusieurs arbres de recherche différents dont le contenu est le même. Et vous voyez même qu'il y a des arbres de recherche qui ont une hauteur différente. Donc la hauteur d'un arbre de recherche n'est pas du tout déterminée par le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Et ça, ça va nous amener à une partie entière du cours qui est la notion d'arbre équilibré. Bien, quelle est la complexité de la recherche d'un élément dans un arbre de recherche ? Eh bien, supposez que je cherche l'élément 24. Je vais d'abord le comparer avec 9, et comme 24 est supérieur à 9, je sais qu'il est dans la partie droite du dictionnaire, c'est-à-dire dans le sous-arbre droit qui se trouve ici, et je vais pouvoir oublier toute cette partie de l'arbre, jamais aller regarder, et recherche ici dans le sous-arbre droit. Et ensuite, ici, je sais que 24 est plus grand que 19, et donc je vais regarder, et je vais tomber sur cette valeur, et donc je sais que 24 est ensemble. Si je cherchais, mettons, 18, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Je serais parti de 9, 18 c'est plus grand, donc je vais ici, 18 c'est plus petit que 19, donc je vais là. Maintenant, 18, c'est plus grand que 12. Donc, s'il y a un endroit où le 18 peut se trouver, c'est là. Mais ici, je m'aperçois que quoi ? Que le champ droite de ce nœud, c'est quoi ? C'est nul. Et donc, comme 18 n'appartient pas à l'arbre vide, eh bien, je peux répondre non. OK ? Vous voyez deux choses ici. D'abord, quelle est la complexité de cet algorithme ? Combien, au maximum, mettons dans le pire des cas, Combien de comparaisons je vais devoir faire ? Il y a un nombre qui est proportionnel à la hauteur de l'arbre. Et ça, si j'ai un peu de chance, ou si je me suis bien débrouillé, la hauteur de l'arbre, comme on va le voir tout à l'heure, elle peut être logarithmique en nombre d'éléments de l'arbre. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de raison que ça le soit, puisque ici, la hauteur de l'arbre peut être à peu près quelconque, enfin pas tout à fait quelconque, mais elle peut être variable. Elle ne dépend pas uniquement de la taille du nombre d'éléments qu'il y a dedans. L'autre point important, c'est qu'il y a des parties de l'arbre que je ne vais pas du tout regarder. D'accord ? Donc je vais être capable de répondre oui ou non à la question est-ce qu'un élément est dans l'arbre sans regarder l'intégralité de l'arbre. Et le fait qu'il y ait des données que je ne regarde pas, ça c'est essentiel pour avoir un algorithme qui est sous-linéaire, c'est-à-dire un algorithme qui a une complexité meilleure que linéaire, c'est forcément un algorithme qui doit ignorer une partie des données. Et donc là, il y a un petit mystère, qui est comment est-ce qu'en ignorant une partie des données, on peut être sûr qu'un élément n'est pas dans l'ensemble ? Eh bien, c'est parce qu'on a un jour regardé ces données, en particulier le jour où on les a entrées dans l'arbre. Bien, on a vu l'algorithme de recherche et on a vu que sa complexité était proportionnelle à la hauteur de l'arbre. Maintenant, comment ajouter un élément à un arbre ? Par exemple, je veux ajouter l'élément 18. Eh bien, je vais faire comme si je le cherchais, et à un moment, je vais tomber sur un nœud, par exemple celui-ci si c'est 18, ou celui-là si c'est 7, dans lequel j'ai un pointeur qui a la valeur nulle, j'ai un champ de mon nœud qui a la valeur nulle, le champ droit ici et le champ droit là, et en gros, c'est là que j'ai envie d'ajouter le nouvel élément. Et ce nouvel élément, ça va devenir une feuille de l'arbre, ou bien une feuille que je vais mettre ici, ou bien une feuille que je vais mettre là, mais l'élément que j'ajoute n'est jamais un nœud interne de l'arbre. Encore une fois, quelle est la complexité de cet algorithme ? Eh bien, ça me demande juste de parcourir la branche exactement comme si je cherchais le nœud. Ça va prendre une complexité, un nombre d'opérations qui est proportionnel à la hauteur de l'arbre, et puis après, j'ai un nombre fini d'opérations ici qui consiste à créer ce nœud et à mettre la valeur 7 ou 18 dedans. D'accord ? Donc, à la hauteur de l'arbre, attention, ce qui est important quand vous faites la recherche, ce n'est pas de revenir avec le pointeur nul qui se trouve ici, avec la valeur nulle qui se trouve là, c'est de revenir avec la valeur qui se trouve là. D'accord ? Exactement comme on avait vu la concaténation de deux chaînes, il faut faire, quand on fait la boucle while par exemple, ou quand on descend récursivement dans l'arbre, pour trouver le nœud, ce qui est important, ce n'est pas de trouver le nul, parce qu'une fois que vous avez le nul, vous n'avez rien, mais c'est de trouver le nœud qui se trouve juste avant, c'est-à-dire le nœud dont l'un des champs est nul. La suppression est un tout petit peu plus compliquée. Donc, on va faire trois cas. Supposons que je veuille supprimer le nœud 24. Un abonné qui se désabonne du téléphone, on va le supprimer de l'annuaire. Où il y a un mot qui devient obsolète, on décide de le supprimer du dictionnaire. Supprimer 24. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut parcourir l'arbre jusqu'à trouver 24, mais en gardant quoi ? La valeur du nœud qui se trouve au-dessus. Parce que c'est dans 19 qu'ici, il va falloir supprimer le champ droit et le remplacer par nul. OK ? Et ici, une fois que j'ai 19 et que je sais que le champ droit, c'est juste le singleton 24, eh bien, il me suffit de mettre nul dans ce champ-là pour supprimer 24. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai supprimé 5 ici ? Eh bien, vous voyez que si dans le champ 9 qui se trouve là, je mets la valeur nulle, je vais supprimer à la fois 5 et 1. D'accord ? Donc là, il y a un abonné qui sort de l'annuaire sans avoir rien demandé à personne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un nœud comme ça qui a un seul enfant ? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec du nœud 1 ? Ben, on va le recoller comme le champ droite de ce nœud-ci. Donc, si ce nœud s'appelle A, eh bien ce que je vais faire, c'est A point droite égale A point droite point gauche. Le plus intéressant, c'est celui où je veux supprimer ce 19. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là ? Ben vous voyez que ici, je peux pas recoller le 24 et je peux pas recoller le 12. Enfin, je pourrais recoller ou bien le 24 ou bien le 12, mais dans chacun des cas, j'en perdrai un. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour... pour supprimer le 19, ben, une bonne chose à faire, c'est de supprimer ce nœud et de remonter ce nœud ici, tout en gardant le 24 comme enfant de ce nœud-là, qui maintenant va devenir 12. Ok, donc ça a une chance de tomber sur un nœud binaire, et en général, c'est ce qui arrive. Le cas où on a une feuille ou un nœud qui a un seul enfant, c'est un cas dégénéré. Dans ce cas-là, on va chercher le plus grand élément de l'arbre gauche, le remonter à la place du nœud qu'on veut supprimer, et ensuite le supprimer récursivement dans l'arbre gauche. Quand on le supprime récursivement dans l'arbre gauche, est-ce qu'un nouveau problème va se poser de savoir si ce nœud, est-ce qu'il peut à nouveau être binaire, ce qui va nous demander de rechercher encore un nœud et de permuter, etc. Alors, est-ce que le nœud qui est ici est la plus grande valeur du sous-arbre gauche de 19, est-ce qu'il peut être binaire? Eh bien non. Et pourquoi il n'est pas binaire? Parce que c'est le plus grand élément, et s'il avait un enfant droit, eh bien cet enfant droit serait plus grand que 10, que 12, puisque l'arbre est ordonné. Donc on a ici un algorithme de suppression qui est récursif, mais qui s'applique au maximum deux fois, c'est-à-dire une fois on supprime ce nœud, puis on supprime ce nœud, mais on s'arrête là, il n'y a que deux appels à la fonction. Donc voici la manière de faire la recherche. Je cherche un élément X dans l'arbre A. Si l'arbre est nul, je dis il n'y est pas. Si X est la valeur de A, je dis il y est. Sinon, selon que je suis plus petit ou plus grand, eh bien, je m'appelle récursivement sur l'arbre gauche ou sur l'arbre droit. Voici l'insertion. Et attention, dans le cas de l'insertion, j'ai deux possibilités. Ou bien je modifie l'arbre, auquel cas je peux écrire juste insert de n et de a, et ça va insérer la valeur n dans l'arbre a. Ou bien je recopie l'arbre, je fabrique un nouvel arbre, et donc dans ce cas-là, la fonction insert va me retourner un nouvel arbre, et je vais devoir écrire a égale insert de n et de a. À quoi je dois prendre garde ici si je modifie la valeur de A? À quoi? Au cas où l'arbre est vide. Parce que dans le cas où l'arbre est vide, je ne vais pas trouver un nœud auquel accrocher l'élément que je veux insérer. Il faut que l'élément que je veux insérer devienne la racine. L'arbre va juste avoir une racine, un singleton. Une fois que j'aurai inséré un élément dans l'arbre vide, dans singleton, et cet élément sera la racine. Et vous voyez que ici, si j'appelle insert de n et de a avec a qui est la valeur nulle, eh bien je ne vais pas pouvoir modifier la valeur de a de manière à ce que a soit une référence vers une cellule. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux utiliser ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'arbre vide ne soit pas représenté par la valeur nulle? Il faut envelopper le type des arbres, d'accord, c'est marqué. Hein. Donc, ici, si je veux modifier comme ça l'arbre, je suis obligé de l'envelopper, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette syntaxe, cette manière de faire, a égale insert de a, et insert de a, en gros, ça va modifier a et me renvoyer A, dans tous les cas, sauf dans le cas où A est nul, auquel cas ça va me renvoyer autre chose, et c'est cette affectation qui va faire que A a changé de valeur. Donc, voilà à quoi ressemble l'algorithme. Et puis, ça c'est la suppression. Donc, les trois cas, on supprime un nœud qui a deux enfants, on cherche le max du sous-arbre gauche, c'est la nouvelle valeur du nœud qui contient la valeur à supprimer, et on le supprime récursivement, et lui n'a pas d'enfant droit. Bien, jusqu'ici, on avait des arbres qui étaient des arbres binaires avec un champ contenu. Oui, il y a une question? Une question? Non? Bon. Jusqu'ici, on avait des arbres qui représentaient des ensembles, qui étaient des arbres binaires avec un champ non récursif. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser cette notion d'ensemble pour représenter une liste de couples. Et donc, un arbre qui contient des couples, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire. Donc, voici le type, la définition du type. J'ai les deux champs gauche et droite comme d'habitude. Et au lieu d'avoir juste un champ val et de répondre l'élément est dans l'ensemble ou l'élément n'est pas dans l'ensemble, je vais avoir un champ clé et un champ val. Je vais chercher un couple dont en gauche est une certaine valeur x, dont la clé est une certaine valeur x. Et si c'est le cas, je dois retourner la valeur val. Donc voici ce que devient la fonction de recherche, qui devient maintenant la fonction asoc, qui a un entier x et un arbre a m'associe la valeur associée à x dans a vu comme un ensemble de couples. Donc si x c'est le champ clé de l'arbre a, eh bien je retourne le champ val. Et si x est plus petit que la clé, je me rappelle sur l'arbre gauche. Si x est plus grand que la clé, je me rappelle sur l'arbre. Le cas qui est nouveau et qui va nous amener justement dans la dernière partie du cours à introduire la notion d'exception, c'est qu'est-ce que je fais quand je cherche un élément qui n'est pas dans le dictionnaire. Quand j'avais juste des ensembles de mots, si vous voyez le dictionnaire comme le dictionnaire des mots croisés, dans lequel vous avez juste un ensemble de mots, mais on ne s'intéresse pas à la définition, puisque juste dans le dictionnaire du Scrabble, pardon, la seule chose qu'on veut savoir, c'est si on peut placer le mot ou pas, et donc il n'y a pas de définition, on n'a pas besoin de connaître la définition, il suffit de savoir que le mot existe ou pas. Dans ce cas-là, on avait un arbre qui avait un seul champ val, pas de champ clé, et on retournait ici le booléen false. On disait le mot n'est pas dans l'ensemble. Ici, c'est plus compliqué, parce que quand le mot est dans le dictionnaire, on veut retourner sa définition, qui est le champ val, mais quand il n'est pas dans le dictionnaire, on veut retourner l'information qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Et donc ici, j'ai utilisé une technique qui consiste à renvoyer la valeur moins 1 dans le cas où il n'y a pas de couple dans le dictionnaire qui correspond, dont la clé est x. Alors quel est le problème avec cette méthode? C'est qu'il se pourrait qu'il y ait dans le dictionnaire une valeur x qui est associée à la valeur moins 1. Auquel cas, j'ai aucun moyen de savoir ici si ce moins 1 signifie que l'élément n'était pas dans le dictionnaire ou si il était dans le dictionnaire mais associé à la valeur moins 1. Et donc, bien sûr, j'ai un moyen de savoir parce que dans mon dictionnaire, j'avais décidé de ne mettre que des nombres positifs. Donc, si j'ai décidé de ne mettre que des nombres positifs, je peux utiliser la valeur moins 1 comme une valeur exceptionnelle qui m'indique l'absence de de couple dans l'arbre dont le champ clé est x. D'accord? Vous avez le même problème dans la recherche du dictionnaire. Supposez qu'il y a un mot en français qui signifie ne pas être dans le dictionnaire. Le jour où vous cherchez ce mot-là, vous lisez la définition et ça vous dit il n'est pas dans le dictionnaire. D'accord? Mais quand vous la lisez à haute voix, quelqu'un qui vous écouterait pourrait croire que le mot n'est pas dans le dictionnaire, alors qu'il est dans le dictionnaire et qu'il est associé à la définition, il n'est pas dans le dictionnaire. Bien, parlons maintenant des arbres équilibrés. Et les arbres équilibrés vont nous amener à discuter de essentiellement de ce mot-là, quand je vous avais dit tout à l'heure que la complexité de l'insertion, de la recherche ou de la suppression d'un élément dans le dictionnaire était proportionnelle à la hauteur de l'arbre, qui est le log du nombre des éléments. Et donc, on va voir jusqu'à quel point ceci est vrai. Alors, un petit peu, si vous avez un arbre de hauteur h, quel est le nombre maximal de nœuds qu'il peut y avoir dans cet arbre? Eh bien, ce nombre, c'est 2 puissance h plus 1 moins 1. Donc ça, vous avez deux moyens de le voir. Ou bien vous vérifiez que le nombre de nœuds maximal vérifie cette relation de récurrence. Le nombre de nœuds maximal dans un arbre de hauteur h plus 1, c'est 1 plus 2 fois le nombre de nœuds, le nombre maximal de nœuds dans un arbre de hauteur h. Pourquoi? Parce que cet arbre saturé, il contient combien de nœuds? Un nœud pour l'arbre, puis max de h nœud sous arbre. Et donc vous vérifiez que cette formule vérifie cette relation de récurrence, et vous vérifiez que quand vous avez un arbre de hauteur 1, il contient exactement un nœud au maximum, enfin au maximum, il contient exactement un nœud, donc il contient un nœud au maximum, et que 2 à la puissance 0 plus 1 moins 1, eh bien ça fait bien 1. Donc vous avez une première manière de démontrer ça. Vous avez une autre manière qui consiste à voir que le nombre de nœuds de l'arbre, c'est le nombre de suites binaires de longueur inférieure à h, et ça, il y en a 1 plus 2 au carré, plus 2 à la puissance h, et donc ça, vous savez que ça fait 2 à la puissance h plus 1 moins 1. Remarquez que quand la hauteur de l'arbre est nulle, pardon, quand l'arbre est vide, sa hauteur c'est moins 1, et le nombre de nœuds c'est 0, et que la formule marche encore, 2 puissance 0 moins 1 ça fait 0, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre la hauteur de l'arbre vide égale à moins 1, de manière à la chose. Bien, une fois que vous avez démontré ça, il n'est pas difficile de voir que la hauteur minimale d'un arbre de taille n, c'est la partie entière du log binaire de n. D'accord? C'est un petit peu d'encadrement. Et donc, on voit que c'est pas la hauteur toujours d'un arbre de taille n qui est log de n, c'est la hauteur minimale. Et malheureusement, la hauteur maximale, eh bien, elle est obtenue quand on a un arbre complètement dégénéré comme celui-ci, qui en fait est une liste, et dans ce cas-là, la hauteur, c'est n moins 1. Vous avez n éléments, et la hauteur, c'est n moins 1. Donc un arbre, ça a une hauteur qui est comprise entre log binaire de sa taille et la taille elle-même. Donc entre log et linéaire. Donc il y a ici un certain nombre de résultats qui portent sur des arbres aléatoires. Et en gros, l'idée qu'il faut retenir, c'est que les arbres aléatoires se comportent comme les arbres minimaux. Donc si vous insérez aléatoirement des entiers dans un arbre, vous faites un générateur aléatoire qui vous tire au hasard des entiers et vous insérez les entiers dans un arbre, et bien dans ce cas-là, l'espérance de l'arbre, elle est logarithmique. Et donc ça, c'est plutôt un résultat encourageant, c'est-à-dire que si vous faites confiance au hasard, mais il n'y a pas de problème à se poser, en moyenne, vous allez obtenir des algorithmes qui sont logarithmiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver qu'ils soient linéaires. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser dans un cas où vous voulez être sûr que vous avez un algorithme logarithmique. D'accord? Si vous êtes dans du logiciel embarqué, dans un avion, dans une fusée, etc., vous ne voulez pas juste savoir que votre avion, en moyenne, va atterrir, vous voulez être sûr qu'il atterrit. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas l'utiliser, mais pour des bases de données que vous mettez sur le net, par exemple, bon, bah, si une fois c'est un petit peu lent, de toute façon, vous pourrez toujours accuser le réseau. Donc, c'est moins grave. C'est moins grave. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est la complexité en moyenne. Bon, la complexité, dans le pire cas, vous avez compris qu'elle est linéaire. Et malheureusement, ce résultat n'est pas aussi utile qu'il pourrait sembler, parce que le pire des cas se produit souvent en pratique. Pourquoi? Comment obtenir un arbre comme celui qu'on avait vu tout à l'heure, un arbre ordonné, comme celui qu'on avait vu, qui est dégénéré, c'est-à-dire qui est filiforme, qui est une liste? Bien, il faut insérer les éléments dans cet arbre, dans l'ordre croissant ou décroissant. D'accord? Si vous insérez les éléments dans l'ordre croissant, vous allez d'abord avoir une racine, puis rajouter un enfant droit à cette racine, puis un enfant droit à cet enfant droit, puis un enfant droit à cet enfant droit, etc. Et donc, vous fabriquez un arbre où chaque nœud n'a qu'un enfant droit, un arbre dégénéré, un arbre filiforme, une liste. Et malheureusement, pourquoi est-ce que ça se produit, ça, très souvent en pratique? Dans quel cas pratique ça peut se produire? Voilà. Donc, vous êtes propriétaire d'un annuaire. Vous êtes propriétaire d'une compagnie qui vend des téléphones. Et donc, vous avez un fichier client qui vous sert à fabriquer votre annuaire. Vous rachetez une autre compagnie. Donc, vous allez récupérer sa base de données client, son annuaire, enfin tout un tas de trucs. Et vous allez vouloir insérer ces éléments dans votre propre base de données. Eh bien, la manière dont vous allez accéder aux éléments dans la base de données de l'entreprise que vous avez achetée, de l'annuaire que vous avez acheté, eh bien, elles sont... Donc la plupart du temps, on ne construit pas des bases de données en insérant des éléments un à un, mais en fusionnant d'autres bases de données. Et au moment où vous fusionnez deux bases de données, à moins d'avoir un algorithme qui vous randomise l'accès à la première base de données, eh bien, vous allez insérer les éléments dans un ordre ordonné, et donc vous allez vous retrouver dans le pire des cas. Donc, il ne suffit pas de se fier au hasard pour dire qu'en moyenne, les choses vont bien se passer. En pratique, elles se passent mal. Donc, que faire dans ce cas-là? Eh bien, une idée possible serait de dire qu'on veut toujours garder un arbre de hauteur minimale. Ça veut dire qu'on va refuser d'utiliser un arbre comme celui-ci. Un arbre comme celui-ci, on va le rééquilibrer et le transformer en un arbre comme celui-là, dont la hauteur est la partie entière du log du nombre d'éléments. Mais pour que les opérations d'insertion, de suppression et de recherche restent logarithmiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que cette opération qui consiste à rééquilibrer l'arbre, elle soit elle-même logarithmique. Si vous avez un algorithme super rapide qui vous insère un nœud en temps logarithmique, mais qui vous déséquilibre l'arbre, et qui ensuite rééquilibrer l'arbre vous prend un temps linéaire, ben, ça sert juste à rien. C'est-à-dire autant avoir un algorithme simple qui vous insère un nœud en temps linéaire, et aurait la même complexité. Donc, une idée qui est d'ajouter une contrainte supplémentaire, de garder toujours des arbres linéaires, des arbres de hauteur minimale, cette idée, elle semble ne pas marcher. Puisque, avoir des arbres de hauteur minimale, on ne sait pas les rééquilibrer en temps logarithmique. Alors, quand j'ai écrit le poly, je me suis dit, bon, il ne suffit pas de ne pas y arriver. Bon, j'ai d'abord essayé un petit peu de rééquilibrer un arbre, mais je n'ai pas réussi. Donc, je me suis dit, je vais dire dans le poly que c'est impossible, mais après, je me suis dit, non, des fois, on cherche, on ne trouve pas, ce n'est pas pour ça que les choses sont impossibles. Donc, d'abord, j'ai regardé si j'en trouvais dans la littérature, je n'en ai pas trouvé. Et finalement, j'ai écrit à Jean Berstel, qui enseignait à l'époque à l'école, et qui est un des spécialistes de l'algorithmique des arbres, et je lui ai demandé s'il savait rééquilibrer un arbre en temps logarithmique, c'est-à-dire le rendre de hauteur minimale en temps logarithmique, et ou alors s'il savait démontrer que ce n'était pas possible. Alors, il m'a dit, bien sûr, ce n'est pas possible, je vais essayer de le démontrer, et puis, il m'a écrit une semaine après en me disant qu'il ne voyait pas trop comment démontrer ça. Et donc, si Knut n'a pas réussi à démontrer que c'est impossible, on va juste supposer que c'est impossible, et, ou supposer que c'est peut-être possible, mais on ne sait pas le faire, et donc, il faut trouver une meilleure idée. Donc ici, si on se donne cette contrainte de garder un arbre qui est de hauteur minimale, le rééquilibrage, tel qu'on sait le faire, en tout cas tel que moi je sais le faire, est trop coûteux, trop cher. Donc l'idée de la notion d'arbre équilibré, c'est d'affaiblir cette contrainte selon laquelle les arbres doivent être de hauteur minimale. Et un ensemble d'arbres équilibrés, c'est n'importe quel ensemble d'arbres, tel que la hauteur de chacun des arbres de l'ensemble soit plus petit que le log du nombre de ces éléments, multiplié par une certaine constante. Une certaine constante qui est la même pour tous les éléments de l'ensemble. Bien sûr, pour chaque arbre, vous pouvez toujours trouver une constante. Il suffit de la hauteur par le log du nombre d'éléments, d'ajouter 8, et vous avez une constante qui majeure le rapport entre la hauteur et le nombre d'éléments. L'important, c'est qu'il y ait une constante pour l'ensemble, tous les arbres de l'ensemble que vous considérez. Voici deux ensembles d'arbres. Les arbres de taille minimale forment un ensemble équilibré. D'accord, et là, la constante, c'est 1 sur log de 2, en gros. En revanche, l'ensemble de tous les arbres n'est pas un ensemble d'arbres équilibrés, puisqu'il n'existe pas de constante telle que pour tout n, n-1 soit plus petit que k log de n. OK ? Alors attention, ça n'a pas de sens de dire qu'un arbre est équilibré. Puisque si vous prenez un ensemble qui contient un arbre, ou plus généralement un nombre fini d'arbres, il existe toujours une constante comme ça. Il vous suffit de regarder la hauteur de chacun des arbres de votre élément, et puis vous prenez le max des quotients des n sur log de, des h sur log de n, et vous obtenez une constante qui convient. Donc, c'est une propriété collective, c'est une propriété de l'ensemble d'arbres d'être équilibré ou non. Et vous voyez ici que quand on a l'ensemble de tous les arbres, il n'est pas équilibré parce qu'il n'existe pas une constante k telle que pour tout n, il est n-1 soit plus petit que log de n. En revanche, pour tout n, il existe une constante telle que n-1 soit plus petit que log de n. Donc il existe, donc voilà une méthode pour rendre la recherche, l'insertion et la suppression logarithmique, c'est de choisir un ensemble d'arbres équilibrés pour lesquels le rééquilibrage soit logarithmique. Et donc, on ne sait pas si l'ensemble des arbres minimales vérifie cette propriété. On sait que c'est un ensemble d'arbres équilibrés, mais on ne sait pas si le rééquilibrage peut être rendu logarithmique. Et en revanche, il y a de nombreux autres ensembles d'arbres équilibrés pour lesquels le rééquilibrage est logarithmique. Et il y a même une branche entière de l'algorithmique des arbres qui, tous les jours, invente de nouveaux types d'arbres, de nouvelles contraintes sur des arbres, de nouveaux ensembles d'arbres qui vérifient à la fois ces deux propriétés. Une notion d'arbre, un ensemble d'arbres équilibrés qui s'appelle les arbres AVL, en sachant qu'ici, on pourrait faire 10 amphis, un sur les arbres AVL, un sur les arbres 2-3, un sur les arbres bicolores, etc. D'ailleurs, ça a été, on aurait fait ce cours il y a 10 ou 15 ans, on aurait certainement fait ça. Il y a des livres entiers qui font 500 pages sur les différentes sortes d'arbres qu'on peut équilibrer en temps logarithmique. Et là, on va juste passer rapidement sur les arbres AVL, de manière à ce que vous sachiez que ces arbres existent. Donc, les arbres Adelson, Adelson qui est l'ensemble, donc c'est pour ça qu'on préfère les AVL que d'Adelson, Velsky et Landis. Et ils se définissent comme ça. À chaque nœud de l'arbre, vous regardez la hauteur de l'arbre gauche, vous regardez la hauteur du sous-arbre droit, vous regardez, et il faut que la différence entre ces deux hauteurs soit ou bien 0, ou bien 1, ou bien moins 1. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire que l'arbre est de hauteur minimale. Vous pouvez vous amuser à trouver des arbres qui ne sont pas de hauteur minimale, quoi qu'ils vérifient cette propriété d'être des arbres AVL. Mais une conséquence de ça, c'est que la hauteur de l'arbre est inférieure au log de n plus 2, où n c'est la taille de l'arbre, sur le log de taux moins 1. Et donc vous voyez que... Alors qu'est-ce que c'est que ce taux ici? Ben c'est comme pi, je veux dire, il y a un seul nombre qu'on appelle taux en mathématiques. C'est le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc il faut démontrer la formule pour comprendre comment le nombre d'or entre ici. Mais vous voyez qu'en gros, si on a plus 2, en gros la hauteur, c'est le log du nombre d'éléments, non pas en base 2, mais en base, nombre d'or. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus grand que le log en base 2, mais qui reste proportionnel au log en base 2. Vous perdez un facteur log de 2 sur log du nombre d'or, mais l'important c'est qu'il existe une constante pour que cet ensemble d'arbres soit équilibré. Alors comment est-ce qu'on rééquilibre un arbre AVL. Quand vous ajoutez un élément ou quand vous supprimez un élément dans un arbre AVL, vous obtenez un arbre qui n'est plus nécessairement AVL puisque vous avez créé un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il peut être à quel endroit? Quels sont les nœuds pour lesquels il peut y avoir une différence entre la hauteur de l'arbre gauche et la hauteur de l'arbre droit qui n'est pas moins 1, 0 ou 1? Eh bien, ce sont tous les nœuds qui se trouvent sur le chemin, sur la branche qui va de la racine de l'arbre jusqu'au nœud que vous venez d'ajouter. Et ces nœuds, il y en a combien? Il y en a un nombre qui est borné par la hauteur de l'arbre, puisque c'est une branche de l'arbre, et donc qui est borné par le log d'éléments. Chacun de ces nœuds, mais si on arrive à faire chacun des nœuds en temps constant, eh bien on aura fait le rééquilibrage de l'arbre entier en un temps logarithmique. Et alors, le déséquilibre, il n'est jamais énorme. Hein. Il y a les nœuds d'une branche qui peuvent avoir un déséquilibre moins 2 ou 2. Si vous voulez juste rajouter un nœud, donc vous avez potentiellement augmenté de 1 ou diminué, dans le cas d'une suppression, la hauteur d'un des sous-arbres. Donc vous êtes passé, vous étiez à moins 1, par exemple, vous êtes passé à moins 2, vous étiez à 1, vous êtes passé à 2. Et en général, vous êtes resté à moins 1, donc il y a un certain nombre de déséquilibres. Et ces déséquilibres, on les corrige en faisant cette transformation sur les arbres équilibrés. Alors vous avez ici un arbre dont la racine contient la valeur y. Le sous-arbre droit, on s'en fout, il s'appelle C. Le sous-arbre gauche, il a une racine qui s'appelle X et il contient lui-même un sous-arbre gauche qui s'appelle A et un sous-arbre droit qui s'appelle B. Et vous voyez ici que les éléments de A sont plus petits que X et plus petits que Y. X est plus petit que Y. Les éléments de B sont plus grands que X, mais plus petits que Y. Donc autrement dit, ils sont compris entre X et Y. Et les éléments de C sont plus grands que Y. Eh bien, cet arbre, vous pouvez le transformer en cet arbre-là, où vous avez monté ici ce nœud X qui devient la racine de l'arbre. A, vous l'avez mis là, et vous voyez qu'ils sont plus petits que X et que Y, puisque Y est plus grand que X. Ici, B se trouve à la fois être plus petit que X et plus grand que X et plus petit que Y. Donc, l'arbre reste équilibré puisque les éléments de B étaient compris entre X et Y. Et les éléments de C, ils sont plus grands que Y et lui-même plus grand que X. Et donc, l'arbre que vous obtenez ici reste équilibré. Les éléments sont restés dans le même ordre. Il y a d'abord les éléments de A, puis X, puis les éléments de B, puis Y, puis les éléments de C. Et ça, c'est les éléments de A, puis X, puis les éléments de B, puis Y, puis les éléments de C. Donc, les éléments sont restés dans le même ordre quand vous avez fait cette rotation de l'arbre AVL. Petit théorème, je vous laisse en exercice. Quand on a un nœud qui a un déséquilibre de 2 ou de moins 2, on arrive à le rééquilibrer en faisant au maximum deux rotations de ce type. Donc, 2, c'est une constante. Et une rotation se fait en un temps constant parce que c'est une opération purement locale. La rotation ne demande pas d'aller regarder ce qu'il y a dans A, dans B ou dans C. Elle se contente de changer des choses dans X et dans Y. Et donc, comme ça, on montre, modulo le petit lemme que je vous laisse en exercice, qu'on peut rééquilibrer un arbre AVL en un temps qui est proportionnel à sa hauteur et donc qui est logarithmique en le nombre d'éléments en vertu du théorème qu'on a vu au transparent précédent. Voilà, c'est tout pour l'équilibrer. Donc, encore une fois, je vous ai dit, on aurait pu passer des heures. Et à certaines époques, quand on enseignait l'informatique, on passait des heures à regarder les différents types d'arbres équilibrés. Par exemple, le livre de Knuth, qui est un des tomes de l'art de programmer les ordinateurs, qui s'appelle Searching Sorting, Recherche et Tri, contenait à peu près l'ensemble des connaissances. Il est à peu près exhaustif sur les manières de rééquilibrer. Donc il y a des livres entiers qui parlent de cette question de la manière de rééquilibrer les arbres et de la manière de programmer des algorithmes de recherche. Et cette question des algorithmes de recherche. C'est une question essentielle. C'est elle qui est devenue quoi dans l'informatique plus moderne? Maintenant, vous avez sans doute peu utilisé des bases de données dans lesquelles vous tapez des requêtes pour savoir si un élément était dans un dictionnaire ou non. En revanche, il vous est peut-être arrivé de taper des requêtes dans un moteur de recherche. Donc, cette branche de l'informatique, c'est elle qui a donné naissance essentiellement à la technologie des moteurs de recherche qu'on connaît aujourd'hui. En même temps, les moteurs de recherche ont tout de suite rendu un petit peu obsolètes. C'est-à-dire, les moteurs de recherche ont développé des techniques différentes, en particulier à base de graphes davantage qu'à base d'arbres. Et donc, c'est pour ça qu'on passe un petit peu rapidement. Mais de quoi il faut se souvenir? Il faut se souvenir, un, que quand on veut stocker une grande quantité d'informations et y accéder en un temps relativement rapide, il faut utiliser non pas des listes, non pas des tableaux, mais des arbres. Et deuxièmement, que même si on utilise des arbres, il peut arriver que tout d'un coup, on ait des algorithmes qui deviennent très inefficaces. Et dans ce cas-là, c'est le bon moment, non pas de se souvenir de la manière dont on équilibre des arbres AVL, puisque moi-même, chaque année, quand je l'enseigne, il faut que je le révise. Mais c'est le bon moment pour se dire, à la librairie, il y a le livre de et c'est le bon jour pour aller le chercher et de regarder exactement comment on rééquilibre l'arbre. Si ce n'est pas vous qui écrivez le programme, mais si, mettons, vous êtes président d'une entreprise dans laquelle vous avez quelqu'un qui écrit un programme comme ça, si tout d'un coup, il se met à se plaindre que son programme devient trop lent, c'est le bon jour pour lui dire, tu devrais aller chercher le livre de Knuth à la bibliothèque et de regarder comment rééquilibrer tes arbres. Donc, c'est des connaissances qui sont importantes d'avoir en tête, parce que si vous ne les avez pas, un jour, votre programme se met à ramer et vous dites, ah ben, j'ai pas de chance, le programme rame. Alors que si vous savez que le fait d'utiliser des arbres n'est pas en soi suffisant, mais que vous avez besoin de les rééquilibrer, à ce moment-là, le jour où un programme a une complexité surprenante, eh bien, vous savez pourquoi, vous savez comment faire face ou comment aider les autres à faire face à cette situation. Donc on va terminer cet amphi avec la notion d'exception. Et la notion d'exception, on va repartir de la question qu'on avait discutée tout à l'heure avec le moins 1. Vous vous souvenez que la fonction ASOC, qui recherche dans un arbre la valeur associée à une clé X, c'est-à-dire qui recherche la définition dans un dictionnaire du mot X, on s'était trouvé un petit peu embêté pour savoir quoi faire dans le cas où l'arbre était vide, et ce qui, après un certain nombre d'appels récursifs, est le cas général quand le mot n'est pas dans le dictionnaire, quand l'abonné n'est pas dans l'annuaire. Donc essentiellement, d'un point de vue mathématique, la fonction ASOC, c'est une fonction partielle. Il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles elle n'est pas définie, exactement comme la fonction 1 sur x n'est pas définie en 0. Et exactement comme dire que la fonction 1 sur x vaut moins 1 en 0, parce que tout le monde va comprendre que ça veut dire qu'elle n'est pas définie, eh bien c'est une mauvaise idée de juste mettre moins 1. Donc, au cours de l'histoire, il y a un certain nombre de solutions qui ont été proposées. Une première solution, c'est celle qu'on a vue, c'est de retourner moins 1, ou plus généralement une valeur conventionnelle. Et il vaut mieux choisir cette valeur conventionnelle différente de l'ensemble des valeurs possibles. D'accord ? Par exemple, si vous parlez de la température à un point du globe, vous pouvez vous renseigner sur les températures qui sont déjà produites à cet endroit, et puis vous allez prendre quelques degrés de plus, et comme ça vous saurez que c'est une température complètement absurde, que c'est certainement pas le signe que c'est la température. Et puis manque de bol, avec le réchauffement climatique, un jour cette température va se produire, et personne ne sait ce qui va se passer dans votre programme. Autre possibilité, vous faites une fonction qui retourne un couple formé d'un booléen et d'une valeur. Donc le booléen vaut true si le mot est dans le dictionnaire et false si le mot n'est pas dans le dictionnaire. Et si jamais le mot est dans le dictionnaire, comme valeur, bien vous retournez la valeur associée à cette clé. Et si le booléen est false, bien peu importe la valeur que vous retournez. Vous voyez que ça, c'est juste une manière plus concrète, plus terre-à-terre, de dire qu'on renvoie un élément dans un type disjonctif qui est formé d'un singleton et de l'ensemble des valeurs. C'est-à-dire, vous retournez l'élément du singleton dans le cas où le mot n'est pas dans le dictionnaire et vous retournez sa valeur dans le cas où il est dans le dictionnaire. Et vous voyez qu'en prenant ce type d'disjonctif, vous vous êtes assuré que la valeur conventionnelle, l'élément du singleton, est disjoint de l'ensemble des valeurs. Dernière solution, troisième solution, puisqu'en gros ces deux-là c'est la même. Dernière solution, vous interdisez d'utiliser ASOC si la clé n'est pas dans l'arbre. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'écrire 1 sur 0. Donc, avant d'écrire 1 sur x, vous devez vous assurer que x est non nul. Et ici, comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites d'abord une fonction qui va vous retourner un booléen, qui va vous dire oui, le mot est dans le dictionnaire ou non, il n'est pas dans le dictionnaire. S'il n'est pas dans le dictionnaire, vous vous arrêtez là. S'il est dans le dictionnaire, vous allez le chercher. Bien, alors, vous voyez que chacune de ces solutions a des inconvénients. La première, celle qui consiste à utiliser moins 1 ou une autre valeur conventionnelle, elle est particulièrement obscure quand vous lisez un programme. Si ce n'est pas vous qui avez écrit le programme, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre que la valeur moins 4, ça signifie que le mot est dans le dictionnaire 8, mais pas dans le dictionnaire 24, alors que la valeur moins 12, bien sûr, signifie quelque chose de complètement différent. Bien entendu, comme vous écrivez des programmes extrêmement clairs, extrêmement commentés, etc., à chaque fois que vous utilisez moins 4, il y a toujours un commentaire qui rappelle, attention, cette valeur conventionnelle indique que blablabla. Mais il vaut mieux, plutôt que d'écrire des programmes commentés, il vaut mieux écrire des programmes où le commentaire est dans le programme lui-même. Au moins, vous êtes sûr que le commentaire est correct. C'est-à-dire, plutôt que d'écrire des programmes obscurs et d'essayer de les éclairer ensuite par des commentaires souvent plus obscurs que le programme lui-même, il vaut mieux se débrouiller pour que les types que vous utilisez reflètent ce que vous voulez dire et qu'il n'y ait pas besoin d'une phase d'interprétation du programme. Donc, la première, ce n'est pas une bonne idée parce qu'elle est obscure. La deuxième, elle est particulièrement lourde puisque vous aviez une fonction qui vous prenez un entier et vous renvoie un entier. Et maintenant, vous avez une fonction qui prend un entier, qui renvoie un couple formé d'un booléen et d'un entier. Et donc, vous allez alourdir énormément le type des fonctions que vous manipulez. Quand la troisième, bien sûr, c'est la pire des trois, vous n'allez pas parcourir deux fois le dictionnaire. Une première fois pour dire, oui, le mot y est, bon, ben, c'est bon, je referme le dictionnaire. Et maintenant, je peux le chercher en étant sûr que je ne vais pas échouer. Donc, ça n'a pas de sens de faire comme ça. Vous perdez en efficacité du programme d'une manière inacceptable. Eh bien, donc, avec les constructions qu'on a vues jusqu'à maintenant, il n'y a pas de moyen de résoudre ce problème. Et c'est pour ça qu'on a introduit dans les langages de programmation une nouvelle construction qui s'appelle les exceptions. Donc voici la même fonction écrite avec des exceptions. Vous voyez d'abord que quand j'ai déclaré la fonction, en plus de dire qu'elle s'appelle ASOC, qu'elle renvoie à un entier, et vous voyez ici qu'elle ne renvoie qu'un entier, elle ne renvoie pas un booléen ou une valeur exceptionnelle ou quoi que ce soit. Elle renvoie un entier, elle prend en argument un entier, un arbre, ça vous le saviez déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Eh bien, elle peut lever une exception. Et d'ailleurs, dans le code de la... Donc ça, c'était la déclaration de la fonction. Dans le code de la fonction, dans le corps de la fonction, ce que je fais, c'est que quand la valeur de A est nulle, eh bien, je vais lever une exception. Et donc là, on est vraiment dans la notion mathématique de fonction partielle. Si on applique la fonction 1 sur x à 0, on ne renvoie pas la valeur moins 1, on ne renvoie pas un booléen qui dit on était hors du domaine de définition, juste on échoue. La fonction 1 sur x dit j'ai pas réussi à calculer, j'ai pas trouvé de valeur. Et donc ça s'appelle lever une exception. Comment est-ce qu'on utilise maintenant cette fonction ASOC? Bien, en général, on veut par exemple chercher la valeur 6 dans l'arbre A, c'est-à-dire la valeur associée à la clé 6 dans l'arbre A, et afficher cette valeur. Donc on aurait ce petit bout de programme, system.out.println, ASOC de 6 et de A. Maintenant que je sais que cette fonction ASOC peut échouer, peut lever une exception, je vais insérer ce morceau de programme dans une construction plus générale, qui est celle-ci, try-catch, qui dit « essaye de faire ça, mais je sais qu'une exception peut arriver, une exception peut être levée, une exception peut se produire, auquel cas, voici ce que je souhaite exécuter. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez afficher, par exemple, pas dans l'arbre. Bien, l'intérêt de cette notion d'exception, et c'est ça qui la rend supérieure à une solution qui reviendrait à envoyer ou bien une valeur exceptionnelle, ou bien un entier, typiquement à renvoyer un élément qui serait dans un type disjonctif formé d'un singleton et du type des valeurs, c'est que si j'écris cette fonction asoc plus ici, qui fait quoi? Elle prend un entier, elle prend un arbre, elle cherche la valeur associée à cette clé dans cet arbre, et elle ajoute 1. Normalement, comme j'utilise ici la fonction asoc, et que je sais que la fonction asoc peut lever une exception, ce que je devrais faire, c'est protéger cet appel à la fonction asoc par une construction try-catch. Mais je ne l'ai pas fait. Ici, vous voyez que je n'ai pas mis try return asoc de x a plus 1 catch exception. Ben, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Vraisemblablement, j'enverrai une exception. Je lèverai une exception. Parce que si je n'ai pas retrouvé la valeur associée à x dans l'arbre A, a fortiori, je ne sais pas comment lui ajouter 1. Donc, il faut que cette fonction aussi soit partielle. Eh bien, je n'ai pas eu besoin d'écrire ça. Il m'a suffi de ne pas protéger ici l'appel à asoc par un try. Et dans ce cas-là, si asoc lève une exception, alors asoc plus va lever la même exception. Et là, je n'ai rien eu besoin de dire. Alors, regardez ce qui se serait passé si j'avais eu un type disjonctif. Il aurait fallu, pour pouvoir faire plus 1, ici, que j'aille récupérer la valeur à l'intérieur de l'entier à l'intérieur de mon type disjonctif. Et pour ça, il aurait fallu que je regarde deux cas. Le cas où j'ai une valeur exceptionnelle, auquel cas, je ne sais pas, l'addition n'est pas définie pour ces valeurs exceptionnelles. Ou bien le cas où j'ai un entier. Dans le cas où j'ai un entier, j'aurais renvoyé n plus 1. Et dans le cas où j'ai une valeur exceptionnelle, j'aurais renvoyé cette valeur exceptionnelle. Donc, ce qui est explicite dans le cas où j'ai un type disjonctif devient ici implicite. J'ai rien besoin d'écrire. L'exception se propage toute seule. Le cas peut-être plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais renvoyé moins 1 ici dans asoc. Ben, on aurait renvoyé 0, parce que vous savez que moins 1 plus 1, ça fait 0. Et vous voyez qu'ici, on est dans le cas où on a juste oublié que la fonction asoc pouvait renvoyer une valeur exceptionnelle moins 1. On a ajouté 1. Le compilateur, le vérificateur de type, etc., ne vont absolument rien dire, parce qu'eux ne sont pas au courant que moins 1, c'était une valeur conventionnelle. Et donc, il y a un moment, on va ici retrouver 0. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, et ça va juste être interprété comme un vrai 0, par exemple, et non pas comme une valeur exceptionnelle. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une gradation. Utiliser une exception est mieux qu'utiliser un type disjonctif, mais utiliser un type disjonctif est quand même beaucoup mieux qu'utiliser la valeur moins 1, surtout si on va faire de l'arithmétique ensuite avec les fonctions qu'on a manipulées. Comme la fonction asoc plus, vous voyez qu'elle peut lever une exception, on a déclaré qu'elle pouvait lever une exception, même si dans son code, dans le corps de la fonction asoc plus elle-même, on n'a pas levé d'exception, c'est la fonction asoc qui le fait pour nous. Eh bien, quand on utilise la fonction asoc plus, là, on peut mettre un try-catch. Ça, c'est la définition qu'on aurait obtenue, la définition équivalente où on aurait protégé asoc par un try et puis levé l'exception au cas où elle se serait produite. Vous voyez qu'avec les exceptions, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est qu'on perd un tout petit peu la localité dans le programme. C'est-à-dire, on était parti dans... Repensez la notion de séquence. On était quand même parti de l'idée qu'un programme, c'était une suite de lignes qu'on exécutait l'une après l'autre. Puis après, on a été amené à relativiser ça en mettant des boucles, en mettant des tests qui permettent de sauter des parties de programme, en mettant des fonctions qui permettent d'aller exécuter un petit bout de programme et puis de revenir. Mais là, on va un cran plus loin dans cette idée de décorréler complètement la dimension statique du programme de la dimension dynamique. Ici, le petit bout qui se trouve dans un catch, eh bien, il va être exécuté non pas parce que on est arrivé. Alors oui, voilà, c'est là. Ce petit bout qui est dans un catch, on est arrivé là non pas parce que juste avant on était à la ligne d'au-dessus, ou parce qu'il y a eu un appel vers cette fonction, mais parce qu'il s'est passé quelque chose qui nous a amené là. Il y a un événement qui s'est produit, et quel que soit l'endroit où l'événement s'est produit, eh bien, on est arrivé là. Donc, il y a des programmes où vous avez des trails avec ici un code relativement complexe qui peut faire beaucoup de choses, mais surtout qui peut lever des exceptions extrêmement différentes. Et puis ici, une liste de choses à faire dans le cas où une exception est levée. Et ça ressemble un petit peu à des consignes de sécurité. Vous faites tout un tas de choses sans trop vous préoccuper de ce qui peut se passer. Et puis ici, vous avez tous les cas. Si le bâtiment est en feu, alors il faut sortir. Si il a gelé, il y a une température inférieure à moins 15, à ce moment-là, il faut rester chez soi. Et vous avez tout un tas de consignes qui ne vont s'exécuter, non pas dans un certain ordre qui a été déterminé par le programmeur, mais simplement quand un événement va se produire. Et donc, par exemple, vous pouvez programmer des robots comme ça, où si le robot se cogne, si le robot tombe de la table, ben à ce moment-là, il y a une exception qui dit qu'il faut allumer une petite lampe rouge. Si le robot se cogne sur un objet, à ce moment-là, on lui dit qu'il faut faire machine arrière. Et plutôt que d'essayer de planifier ce que va faire le robot, on donne au robot tout un tas de cas particuliers où des exceptions vont apparaître et il faut qu'il trouve quoi faire en fonction de l'événement qui s'est produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la programmation réactive. Au lieu d'imaginer que l'ordinateur est un monde clos où il se passe des choses que le programmeur a prévues, on imagine que l'ordinateur est dans un monde ouvert où il peut se passer tout un tas de choses. Il y a des capteurs qui vont savoir ce qui se passe et en fonction de ce qu'envoient les capteurs, eh bien, on va lever une exception et aller exécuter un bout de code qui peut-être sera exécuté, peut-être sera jamais exécuté. Et c'est une vision un tout petit peu différente de la programmation qui est avancée ici. Alors, les exceptions, on en avait déjà vu au moins dans deux situations. La première, c'est que les messages d'erreur, division par zéro, sont des exceptions en Java. Donc là, encore une fois, il y a des langages où il y a des messages d'erreur et des exceptions, et puis il y a des langages comme Java où les messages d'erreur sont des cas particuliers des exceptions. Et c'est pour ça que le message d'erreur, quand vous faites 1 divisé par 0, est un peu cryptique. Parce qu'avant de vous dire division par 0, qui est le message que vous voulez connaître, on va vous dire qu'il y a une exception qui s'appelle arithmétique exception et qui elle-même est un objet qui appartient à langue et à Java, qui a été levé. Et donc c'est pour ça que le message d'erreur commence par une indication de quelle exception a été levée et ensuite un petit message qui vous explique pourquoi. Quelle est la conséquence de ça, le fait que les messages d'erreur soient des exceptions? C'est que vous pouvez eux-mêmes les récupérer avec un catch. Donc vous pouvez très bien faire un programme qui fait tout un tas de divisions sans vérifier que le dénominateur, le diviseur, pardon, est nul. Et si jamais il y a une division par zéro qui se produit, bien dans ce cas-là, vous expliquez quoi faire. Je ne sais pas, faire exploser la fusée ou quoi. Bon, on est arrivé dans un cas où on ne sait plus quoi faire. Il y a un deuxième cas où on a déjà rencontré les exceptions. Et ça, on va s'en rendre compte quand on va parler de la fonction sigma. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une séquence P1, P2 et que dans P1, on lève une exception? Ben, rien du tout. P2 ne va pas du tout être exécuté et l'ensemble P1, P2 va lever cette même exception. Et ça, ça doit vous rappeler quoi? Ça doit vous rappeler la sémantique du return où on avait dit quand on a une séquence entre une instruction qui déclenche un return et une exception et une autre instruction, si jamais le return n'est pas déclenché, on va exécuter l'instruction P2, mais si le return est déclenché, à ce moment-là, on n'exécute pas l'instruction P2. Donc là, on s'aperçoit que les exceptions sont, de ce point de vue-là, un peu similaires au return, et en fait, en disant ça, on dit les choses à l'envers, c'est que return est juste un cas particulier du mécanisme d'exception de Java. Et quand vous avez des programmes avec des returns, par exemple quand vous voulez faire des preuves sur des programmes avec des returns, eh bien la première chose que vous faites dans un certain nombre de techniques, c'est que vous réécrivez votre programme sans return, et chaque return, du coup, lève une exception. Du coup, une fonction ne termine jamais, elle termine toujours en échouant, et elle envoie une exception qui contient la valeur de retour, et le programme qui a appelé la fonction récupère la valeur de retour en faisant pardon, un try-catch. Vous voyez que return et les exceptions, les uns et les autres participent à cette idée de ne pas voir un programme comme une suite d'instructions à exécuter l'une après l'autre, mais comme un ensemble de comportements à adopter au cas où il se passe quelque chose. Voilà, pour la semaine prochaine, je vous propose de faire les exercices 9.5 et 9.6, et la prochaine fois, on parlera de parcours d'arbres.